Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le studio Kalangou du Niger et le studio Tamani du Mali sont à Gao au Mali pour co-animer le forum et le grand dialogue ensemble sur le thème « La migration irrégulière vers l'Europe, causes, conséquences et solutions ». Nous sommes dans les locaux de la radio Fitila, Gao, la 7e région du Mali, et comme au Niger, la région d'Agadez où passent de nombreux migrants vers les pays du Maghreb en direction de l'Europe. Si le Niger est considéré comme pays de transit pour beaucoup de migrants, le Mali est quant à lui, il est un pays de départ, en même temps pays de transit pour les candidats à la migration irrégulière. D'où viennent-ils ces migrants? Pourquoi choisissent-ils de partir? Quelles sont les difficultés rencontrées et comment y remédier? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons trois invités. Ibrahim Mihrata Maïga, coordinateur de l'association Direban. Ibrahim, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et Moussa Yahya Touré, membre du conseil communal des jeunes de Gao. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Et Diallo Abdoulaye, il est ancien migrant, également avec nous. Bonsoir, monsieur Diallo Abdoulaye. Pour la présentation de l'émission, je suis Alassane Kouzi Mahamadou, journaliste au studio Kalangou du Niger, avec mon confrère Imrana Kilou Maïga, journaliste au studio Tamani du Mali.
Le Grand Dialogue.
Une grande partie des candidats à l'immigration irrégulière jeunes. Pourquoi ces jeunes tentent cette aventure considérée comme un danger? Je vous propose de suivre la réponse de deux migrants guinéens qui ont accepté de nous parler.
J'étais en terminale, j'avais fait une fois le baccalauréat.
Et pourquoi tu as choisi de partir?
Parce que ma famille était, c'est une famille pauvre. J'ai envie d'enlever cette famille dans la pauvreté. Vous voyez maintenant.
Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de partir de la Guinée pour aller en Algérie?
Parce que j'étais tellement souffert en Guinée. Il n'y a pas de travail. J'étais un sportif. Je jouais dans l'équipe chez IGAS, à Mamou. J'ai décidé d'être un footballeur. Je rêvais d'aller jouer en Europe. Je suis pris la route là pour aller en Algérie, me débrouiller, d'aller en Espagne, mais Dieu n'a pas voulu que je parte.
Ibrahim Mihrata, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre?
Oui, bonsoir monsieur. Donc, en réalité, ce que nous venons d'entendre, je pourrais bien répondre parce que c'est un travail que nous sommes là-dedans, ça fait à peu près 11 ans. Donc, nous avons toujours vu des migrants qui nous parlent comme ça parce qu'en réalité, ils quittent le pays d'origine parce qu'il y a trop de problèmes. Bon, il y a aussi beaucoup de causes qui leur font quitter parce que souvent il y a la guerre, il y a manque de travail, il y a tout. Voilà.
Est-ce des raisons, monsieur Mihrata, est-ce des raisons suffisantes pour partir de chez lui et en tout cas pour une aventure en tout cas dans un endroit inconnu?
Bon, ce n'est pas une raison totale parce que moi je pense que beaucoup de. Par exemple, si je réponds directement à la question du migrant et de l'autorité guinéen qui vient de parler, les difficultés qu'ils ont en Guinée, beaucoup de pays, les gens ont les mêmes problèmes. Mais cela n'empêche que beaucoup restent.
Si nous prenons le cas du Mali, quelles sont, selon vous, les raisons principales pour lesquelles, en tout cas, les jeunes Maliens décident de prendre la route de la migration?
Bon, pour le cas du Mali, il y a beaucoup de raisons. D'abord, tu sais, d'abord, le Mali, c'est un pays où il y a eu beaucoup de gens qui sont immigrés ailleurs. Et les gens aussi qui sont immigrés ailleurs, il y a eu beaucoup qui ont beaucoup gagné d'argent. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup qui voient les autres qui sont petits ont gagné de l'argent. Donc, eux aussi, ils préfèrent prendre la route. Voilà.
Moussa, vous représentez le conseil communal de jeunes de Gao. Alors aujourd'hui, la majorité qui partent à l'immigration est bien sûr jeune. Qu'est-ce qui explique cet amour pour le jeune d'aller à l'aventure?
Bien, c'est l'adolescence, moi je dirais. C'est la folie de jeunesse. On a toujours le désir ardent de connaître ce qu'on ne connaît pas, de voir ce qu'on n'a pas chez soi. Et souvent, on se trompe des images ou bien des histoires qu'on nous raconte. Parce que lorsque quelqu'un vous dit qu'il a passé par tel chemin, ou bien un autre ami vous raconte qu'un tel a passé par tel chemin pour arriver, pour devenir ce qu'il est devenu, vous êtes souvent tenté. C'est parce que il y a l'âge de l'adolescence qui est là. Il y a aussi le fait que on se croit capable. L'autre a fait, pourquoi pas moi? Mais on oublie au même moment que ce que l'autre est en train de devenir ailleurs, je peux le devenir chez moi, et c'est plus rassurant qu'ailleurs. Parce que très sincèrement, nous on a vu quand même des gens qui ont commencé même à réussir ailleurs. Il suffit d'une patrie pour les ramasser, pour qu'ils perdent tous leurs biens qu'ils ont et revenir souvent même en prison.
Abdoulaye Diallo, vous êtes un ancien à l'immigration. Pouvez-vous nous expliquer votre expérience?
Oui, mon expérience, c'est une chose que je vois, tout le monde fait l'immigration, moi aussi je le fais. En disant que je vois la pauvreté ici au Mali, on a fait tout pour chercher la solution, on n'a pas eu la solution pour trouver les choses qu'on a trouvées ici, là, ça ne vaut pas. Les gens qui quittaient en Libye, on disait que, Libye, il y a du travail, quand tu passes là-bas, tu fais un mois, tu peux trouver même 2 ou 3 millions, toi aussi tu souffres de partir pour trouver... pour que tu n'as qu'à sortir de la pauvreté.
Aujourd'hui, comment ressemble votre vie?
Moi, mon vie était maintenant est très bonne, puisque les jours que je suis dans l'aventure. Parce qu'aujourd'hui, je suis là à côté de ma famille, je suis là à côté de ma père, avec mon propre ville. Je vis bien aujourd'hui, puisque ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas réussi, je réussis un peu. Je vois 80%.
Oui, Monsieur Diallo Abdoulaye, ancien migrant, hein, aujourd'hui vous n'êtes plus migrant, vous avez en tout cas arrêté de partir en aventure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça fait maintenant combien d'années que vous avez cessé d'aller en aventure et pourquoi vous avez arrêté de partir et vous êtes là maintenant chez vous?
J'ai arrêté l'immigration, ça fait 12 ans aujourd'hui, parce que en 2007 que j'ai arrivé aussi au Mali, j'ai fait 8 ans de l'aventure. Et je ne gagnais rien aussi, je venais avec ma main vite. Lorsque j'étais en aventure, j'ai dit aujourd'hui, sans retour. Et mais je vois les conséquences. Les jours que je viendrai, je vois beaucoup de choses à changer dans mon derrière. Les jours que je me trouvais ici, mon petit qui travaillait devant moi est devenu des patrons. Et aujourd'hui, c'est moi qui est devenu petit pour lui. Pourquoi? Parce que je laissais mon pays de 1, je laissais mon espérance que j'ai trouvée dans mon pays aussi. J'ai perdu tout. Aujourd'hui, je vais venir travailler ici au Mali, au Gao. Les jours qu'on a construit Dreyben, ça c'est en 2008. Nous, les anciens migrants, on voit les migrants qui sont fatigués, dormaient dans la rue. On dit on défend notre frère et notre ami.
Moussa Yehia Touré, représentant du conseil communal de jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, toute cette jeunesse qui se donne à l'aventure, on peut dire est-ce qu'elles arrivent à réussir dans cette aventure?
Même pas, on ne peut même pas parler même de la moitié, a fortiori toute la jeunesse. Lorsqu'on sait que d'abord, au tout début, il y a des triangles qui les prennent pour les faire comprendre qu'ils vont les amener dans un premier pays d'accueil, chose qui n'est pas toujours vraie. Nous, on a quand même des échos. Il y a des gens qui les amènent en plein désert. Vous savez, la lueur de la lumière souvent fait que à 200 km, souvent dans le plein désert, tu peux observer la lumière en pensant que c'est 2 ou 3 km. Souvent, c'est avec ça qu'on fait de certaines des victimes. On les laisse pour les dire, par là, là, il faut marcher juste pour arriver à destination, alors que tel n'est pas vrai. Ils vont faire peut-être 2 jours ou 3 jours de marche, l'eau finit, le manger finit, et finalement, ils crèvent. Il y a cet aspect. Il y a l'aspect des coxeurs qui les embarquent dans une maison close souvent. On a aussi des échos parce que on a eu quand même à faire des ateliers de formation avec un représentant, n'est-ce pas, qui lutte dans le même cadre. Il nous a fait comprendre qu'il y en a qui se font enfermer dans une maison close. Et ces mêmes gens-là, les exploitants, après avoir fini de les exploiter, ils les torturent et mettent le téléphone sur haut-parleur pour que les parents ailleurs les écoutent et que puissent envoyer ce qu'ils demandent, sans quoi ils vont les tuer. Ça aussi, c'est vraiment des problèmes. Et tous ces problèmes, quand on regarde, on est confronté à ces problèmes que lorsqu'on se lance, n'est-ce pas, dans cette aventure inconnue.
Alors, Ibrahim Mihrata, méga coordinateur de l'association Direiban. En tout cas, vous avez cette association Direiban qui accueille souvent les migrants refoulés de ces pays où ils vont en aventure avant d'atteindre l'Europe. Et souvent, ces gens, quand ils reviennent, ils se confient à vous et c'est pratiquement ces scénarios.
Bon, effectivement, comme mon ami vient de le dire, c'est vrai. D'abord, on appelait de l'association des anciens migrants qui est Direiban. Les mots Direiban, même pour ceux qui parlent bien le soir, ils le savent pour ce que ça veut dire Direiban. Direiban, ça veut dire que aujourd'hui, c'est-à-dire le voyage d'avant et le voyage d'aujourd'hui est différent. Avant, quand tu vas dans un autre pays, tu vois que tu es respecté par rapport à aujourd'hui. Donc, effectivement, quand les migrants reviennent au niveau, quand les migrants sont de retour, nous on les accueille dans notre centre pour bien les écouter, pour qu'ils puissent nous expliquer ce qu'ils ont rencontré sur la route en partant et au retour. Effectivement, c'est ce que mon cousin vient de dire. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment expliquer. Comme on l'a dit, le voyage, ce n'est pas la pauvreté seulement qui pousse les gens d'aller à l'extérieur. Souvent, même, il y a même des problèmes de famille. Par exemple, nous les Africains, on se marie beaucoup. Et souvent, quand tu te maries avec une femme, la première femme part et laisse ses enfants. Et la deuxième femme qui vient ne s'entend pas bien avec les enfants du monsieur. Donc, du coup, l'enfant n'a plus quand même l'amour de rester en famille. Il va à l'extérieur. Et voilà, c'est ce qui pousse que beaucoup de gens voyagent. Voilà, c'est ce que je peux ajouter.
Pour partir en Europe, les candidats à l'immigration irrégulière passent par plusieurs pays, comme le dit Moussa Yahia, et empruntent divers itinéraires, les uns plus dangereux que les autres. Pour cela, je vous propose d'entrée de jeu de suivre Hassan Boukar, membre du département immigration au sein de l'association alternative Espace Citoyen au Niger.
Des voix qui partent du Sénégal, qui remontent vers le sud du Maroc en passant par la Mauritanie. Il y a aussi ce passage qui traverse le territoire malien depuis Bamako, qui remonte à Gao jusqu'à Kidal afin de rejoindre le sud de l'Algérie, notamment la zone de Tamarasset. Et il y a ce passage qui traverse le Niger jusqu'à Agadez et qui part vers Aliti à Samaka en direction de l'Algérie, puis vers Dirkou et la frontière libyenne pour ceux qui veulent aller vers la Libye. Mais le Niger, depuis 2015, le Niger est apparu comme un des pays qui est traversé. Rappelez-vous qu'en 2015-2016, momentanément, on a même avancé les chiffres de 100-150 000 par an qui traversent le Niger en direction du Maghreb. Donc ça donne une idée du nombre de personnes qui sont concernées par ce passage-là.
Abdoulaye Diallo, vous êtes un ancien à l'immigration. Alors, combien de pays vous avez traversé pour arriver à destination là où vous êtes parti pour la première fois?
Bon, ma première fois, j'ai fait seulement au Ghana. Et après que j'ai quitté au Ghana, j'ai dit au Ghana, là, maintenant, c'est pas bon. Je vais aller au Bénin. Au Bénin aussi, j'ai fait là-bas. J'ai dit que non, c'est pas bon. J'ai allé au Nigeria, que tout le monde va partir pour venir. J'ai dit qu'au Nigeria, là, on peut gagner quelque chose. J'allais faire 2 ans là-bas, je ne vois rien après. J'ai retourné au Togo. Et mon frère me dit que mon frère, il ne faut pas gâter ton temps. Il faut aller en Europe. J'ai dit, mais comment je vais aller en Europe? Il dit, il faut aller à Gao. Moi, je suis de Gao. Il dit, hey, tout le monde passant par Gao, toi, tu me dis que tu ne connais pas Gao. Non, moi, je n'ai à Gao parce que tout le monde va partir en Libye. Mais Libye, là, parmi moi, je vois mes parents, mes amis qui fatiguent dans la route pour aller. Parce qu'il y avait des gens même qui sont blessés là-bas, qu'on ne voit même pas. Ils ne sont même pas parlés. Ils commencent à parler jusqu'à une train de pleurer. Pour moi, je dis que les pays arabes, pour moi-même, les gens rentrent dans un danger. Mais pour moi, j'allais en Amérique, j'ai pris mon visa. J'ai dit que je vais aller en Amérique. Parce qu'il y avait mon ami Labérien qui quittait les guerres de Labéria, là, qui venait de Ghana. Ils ont mis là-bas. Il m'a dit que mon frère, tu voulais partir parmi nous pour aller en Amérique. J'ai dit bien sûr. Il m'a dit que tu auras 1 000 000 CFA. J'ai dit oui, j'en ai. So, mais maintenant, je vais te faire des visas. Tu vas faire des nationalités labériennes pour qu'on puisse en partir. Les jours que j'ai payé de l'argent, c'est les jours même que mes parents font des lettres. Là, il n'y a pas de téléphone. Il m'a dit que ton père est décédé. Mon frère ami, je lui ai confié la parole. J'ai dit, et aujourd'hui, je tombe dans une piège que je ne savais pas que je vais sortir là-dedans. Parce que j'ai déjà payé mon argent. Et mon père est venu partir pour me laisser. Il y a mes parents, il y a mes frères qui étaient là, sont des pauvres. Et aujourd'hui, comment je vais faire? Je l'appelle les gars. Il me dit que si tu veux, il faut venir, on va aller ensemble. Si tu ne veux pas aussi, tu laisses. Tu vas rentrer au Mali. J'ai dit, mais avec ma main vite. Il dit que mon frère, tu ne trouves pas de l'argent. Hein? Si tu veux seulement, on y va. J'ai dit non. Il y a mon frère, il s'appelle Moussa. Moussa me demande qu'est-ce qui se passe. Je le raconte. Il me dit que maintenant je te donne 100 000 francs pour que tu puisses me rendre. Tu me donnes ton papier, moi je vais aller. Tu peux aller au Mali. J'ai dit, je te donne 1 million et les gens me donnent des 100 000. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il faut me donner, même si 50 000 francs me donner, je rembourse les papiers, moi j'arrive. Et lui, si ce n'est pas aujourd'hui que je perds son numéro chaque semaine, Moussa m'appelle. Et Diallo, ça va. Je suis en Amérique. J'ai dit, félicitations. Je te réponds, merci.
Alors, monsieur Moussa Yehia, vous êtes du conseil communal de jeunes. Aujourd'hui, la plupart qui partent à l'immigration, c'est de jeunes, comme il vient de rencontrer son calvaire, le calvaire qu'il a rencontré. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que fait la jeunesse de Gao pour stopper ce fléau?
Bien, nous sommes là-dessus tous les jours que Dieu fait. Nous sommes sur, en tout cas, nous sautons sur toutes les occasions pour un peu sensibiliser, pour montrer, n'est-ce pas, les impacts négatifs de cette immigration. Parce que d'abord, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que le développement de toute cité dépend, n'est-ce pas, de sa jeunesse. Alors, si notre jeunesse s'en va pour laisser les vieux et les vieilles, j'avoue que nous allons encore revenir et retrouver notre cité au même état. Pendant que c'est notre jeunesse qui doit travailler pour effectuer véritablement ce changement. Il y a aussi l'aspect risque que nous connaissons tous. Aujourd'hui, quand vous partez en aventure, n'est-ce pas, le clan avec lequel vous partez, c'est du n'importe quoi. Vous partez souvent avec des brigands, vous partez souvent avec des sorciers, vous partez souvent avec des maladifs. Donc, si cette migration, même lorsqu'elle réussisse, c'est avec risque et péril. Parce que souvent, vous arrivez au pays de destination avec une maladie. Alors, dans la pauvreté, quand vous êtes malade, comment il faut faire même pour être sur pied, a fortiori travailler pour avoir ce que vous cherchez.
Alors, est-ce que ces messages, c'est des messages en tout cas que vous avez l'habitude en tout cas de porter à la connaissance de la grande majorité des jeunes, souvent oisifs qui n'ont pas de travail, hein, qui pensent qu'il faut forcément partir?
Bien sûr, c'est des messages que je dis chaque fois que l'occasion se présente, nous ne cessons de faire comprendre, n'est-ce pas, à la jeunesse, que le développement de la cité dépend d'eux. Du coup, il faudrait qu'on se serre les coudes, il faudrait qu'on prenne du courage pour que nous sachions que, en tout cas, cette cité, son développement, sa réussite dépend de nous. Et même la réussite de nous, bien sûr, il y a des jeunes qui n'ont jamais bougé ici, mais pourtant, aujourd'hui, ils sont dans des très belles affaires. Ils ont pu ouvrir leurs entreprises, ils travaillent et ils font travailler certains jeunes. Ça, c'est des exemples qu'on montre pour pousser, n'est-ce pas, les autres. J'avoue que même après 2012, après la reconquête, les premières rencontres que nous avons eues à faire avec l'opération Serval et puis avec la MISMA, avant la MINUSMA, bien sûr, nous leur avons dit que la priorité doit être donnée, n'est-ce pas, à l'entreprise locale. Et ça, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour endiguer ce fléau, c'est pour l'empêcher, c'est pour pousser nos jeunes, nos camarades à ne pas partir ailleurs, à profiter, n'est-ce pas, des opportunités qui se trouvent sur place, parce que c'est en cela et en cela seulement qu'on peut s'épanouir et permettre aux autres de s'épanouir sans qu'il y ait risque.
Ibrahim Miharata, les migrants refoulés des pays d'accueil arrivent à Gao fatigués. Comment l'association Direiben fait pour accueillir ces candidats à l'immigration irrégulière?
Bon, nous, en réalité, les migrants, dès nous sommes là, nous avons des partenaires partout. Nous sommes un réseau qui est dans beaucoup de pays. Nous avons un représentant en Algérie, nous avons un représentant au Maroc, nous avons un représentant en Tunisie, nous avons un représentant en Mauritanie, nous avons un représentant au Sénégal, nous avons un représentant au Niger, et notre représentant aussi c'est bien à Sambucar. Donc, en réalité, dès que les migrants, surtout vers le côté du Mali, depuis à la frontière, nous sommes déjà au courant que les migrants sont au niveau de la frontière. Donc, nous sommes en collaboration avec la Croix du Mali et puis le YEM de Gao. Donc, ils s'organisent à tout faire pour amener ces migrants-là au niveau de Gao. Et quand ils arrivent au centre de Dreben, à partir du centre de Dreben, ils même voient que la vie commence à changer. Et c'est là-bas qu'on les sensibilise pour déclenchement de la vérité. Parce que tous ceux qui partent chercher ailleurs, tout ceci, on peut le trouver ici chez nous. Parce que d'abord, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Moi, je suis sorti en famille, de ma famille à l'âge de 16 ans. J'ai fait beaucoup de pays. Et en réalité, quand je suis parti dans cette aventure, ce n'est pas la pauvreté qui m'a poussé d'aller. Je suis parti voir en réalité le terrain, qu'est-ce qui se passe, où on peut voir une meilleure vie. Donc j'ai vu partout là où je suis parti, c'est l'agriculture, la pêche, le commerce, et tout ceci existe ici, ici même. Donc nous sommes revenus. Dans tous les cas, tous les migrants qui sont de retour quand même, après avoir fini de les accueillir et les écouter, on leur dit notre mot. Parce que d'abord, nous, notre association, ce n'est pas une association qui empêche les gens de voyager. Nous, on n'empêche pas. Parce que chacun a sa cause pour voyager, mais quand même, on les montre quand même le danger qui se trouve quand même sur la route. Voilà.
Et vous les aidez aussi avec vos partenaires, justement, à retourner, en tout cas, en toute sécurité, en toute sérénité, dans leur famille d'origine.
Oui, quand les migrants arrivent, nous, on les donne le temps quand même de se reposer dans le centre pendant 3 jours. Ceux qui sont malades, on essaie de les amener à l'hôpital pour les traiter. Et ceux qui n'ont pas d'habits, on les donne des habits, tout ce qui est possible. Et ceux qui n'ont pas de papiers aussi, on essaie avec la police malienne pour faire une fiche d'acheminement pour qu'ils puissent retourner au pays sans problème. Et on peut aussi le transport.
Et par rapport aux principales difficultés que ces migrants rencontrent, justement, en tout cas dans leur parcours, avant de revenir, en tout cas à Gao, nous avons rencontré justement quelques jeunes migrants qui étaient refoulés de l'Algérie au niveau de Direiben. Et nous avons posé la question à un migrant guinéen refoulé par rapport à son parcours. Nous allons l'écouter.
Je suis venu jusqu'en Algérie, mon rapatrié à Nourang, là où j'ai travaillé, à Magnéa, dans le jardin là. J'ai travaillé là-bas, à Magnéa. Ils m'ont fait sortir jusqu'à dans le désert, nous ont dit Yalla, Mali. D'autres, ils les attrapent dans leur travail, d'autres, ils les trouvent dans le foyer, ils les attrapent, ils les mettent dans un camion, ils les jettent dans le désert. Ils disent Yalla, Mali, suivez la route vers le Mali, allez-y. On était au nombre de 26 personnes, il y avait 6 de nos amis qui sont décédés au désert là-bas. On a marché jusqu'à Khalil, on a trouvé un vieux là-bas, il nous a accueillis, il nous a gardés là-bas 3 jours comme ça, il nous donnait à manger et puis l'eau à boire. Il nous a fait montrer là-bas un docteur qui s'appelle Alphonse Agna. Lui travaille à la Croix-Rouge. Il nous a visité là-bas, il nous a donné tous deux médicaments. Après, il a contacté la Croix-Rouge malienne. Il nous a embarqué là-bas avec les vieux qui nous a ramassés dans le désert. On est venu jusqu'à Taslit. On a fait là-bas quelques heures comme ça. La Croix-Rouge malienne nous a trouvé là-bas. Après, il nous a embarqué dans le même pick-up là. Il nous a envoyé jusqu'au Gao ici, le centre d'accueil là. Direben, il nous a accueillis ici, il nous a dit qu'il va nous aider à rentrer chez nous.
Et Moussa, vous, vous êtes du conseil communal de jeunes. Comment expliquez-vous le traitement dont sont victimes les migrants dans certains pays du Maghreb, notamment en Algérie?
C'est ce que je disais dès au départ. Vous savez, on ne peut jamais avoir, n'est-ce pas, les rouages qu'on a chez soi. Ça, c'est la triste réalité. Quels qu'en soient les moyens, n'est-ce pas, financiers d'un pays, quel qu'en soit le développement d'un pays, lorsque vous êtes étranger, vous êtes toujours étranger. Peut-être que les comportements à votre égard diffèrent d'un pays à l'autre, mais vous ne serez jamais à l'aise. Pour la petite histoire, souvent, vous travaillez étant migrant dans un autre pays, c'est lorsque vous devenez riche que vous aurez des problèmes. Il y en a qui vous font ça, il y en a qui, c'est par pur racisme, le fait que vous ne leur ressemblez pas, ils savent déjà que vous n'êtes pas de leur pays, c'est ce qui vous cause problème. Il y a beaucoup de paramètres. Donc moi, je ne prendrai pas seulement l'Algérie, moi je prendrai au-delà, moi je parlerai même de l'Europe. Même l'Europe là que vous voyez, les migrants qui partent là-bas, souvent c'est lorsqu'ils commencent à devenir riches, n'est-ce pas, qu'ils ont les problèmes. C'est en ce moment qu'on les rapatrie, puisqu'ils sont à l'étranger, ils sont venus de façon informelle, on va profiter pour non seulement bloquer leurs ressources, mais aussi les faire retourner, n'est-ce pas, dans des situations inhumaines, dans des situations condamné par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que lorsque un homme, n'est-ce pas, vous abusez jusqu'à toucher à sa dignité, vous lui déshabillez ou bien vous le cravachez déjà, vous enlevez la dignité humaine en cette personne. Voilà un peu des situations qu'on essaye en tout cas de montrer non seulement à nos camarades migrants qui sont de retour, mais aussi à ceux-là qui semblent être tentés d'aller. Parce que il ne faut pas voir sur 100 lorsque un ou deux réussissent pour dire que je peux être le troisième qui réussisse. Il faut voir, n'est-ce pas, le pourcentage de ceux-là qui ont échoué et prendre ça comme du positif pour se rabattre sur soi-même, pour garder son sang-froid, pour essayer de travailler chez soi et devenir ce qu'on doit devenir. Bref, nous nous dirons tout simplement dans tout ça là, puisque nous sommes dans un pays musulman, nous sommes dans une région musulmane, je dirais tout simplement que les gens n'ont pas la croyance au vrai sens du terme. Parce que ce que Dieu t'a prévu là, quelle qu'en soit la situation, tu vas l'avoir. Que tu sois dans le désert, que tu sois dans un pays côtier, etc., etc., tu vas avoir ce que tu dois avoir. Donc tu dois faire attention pour ne pas tomber dans des risques. Aujourd'hui, ce que le Mali traverse, en plus de tout ça, n'est-ce pas, il y a des radicaux qui vont vous rassembler souvent pour faire de vous des kamikazes. Parce que tout simplement, vous êtes sans défense, on vous entoure de bombes, on vous envoie vous exploser quelque part. Et c'est après, n'est-ce pas, les débris, après avoir ramassé les débris, qu'on découvre qu'un tel est de telle nationalité. Alors que Dieu seul sait que ce n'est pas de votre volonté.
Ibrahim, ici, comment peut-on comprendre qu'un pays frontalier avec le Mali, notamment l'Algérie, parvient à refouler les Maliens?
Merci beaucoup pour la question. J'aimerais beaucoup cette question parce que nous, le problème que nous avons aujourd'hui avec tous les pays, c'est l'Algérie. Pour nous, notre problème, c'est l'Algérie. Parce que l'Algérie, quand l'Algérie se lève pour ce refoulement, il n'est pas besoin de contrôler qui que ce soit. Il ne regarde pas les papiers, rien. Tout ce qu'il prend, c'est pour refouler. Donc nous, en réalité, c'est que nous avons... Effectivement, il y a le Maroc, il y a la Libye, il y a partout. Mais nous, l'association de l'Ébène, en tout cas, selon ce que nous écoutons avec les migrants, le problème, c'est l'Algérie. L'Algérie s'en fout mal des accords bilatéraux, rien.
Effectivement, c'est ce dont je parle. Je dis, comment est-ce qu'on peut expliquer cela?
Bon, nous, on n'a pas d'autre moyen, nous ne font que dénoncer et dire ce qu'on raconte, qu'on entend avec les migrants, on ne fait que dénoncer. On n'a pas d'autre solution que dénoncer.
Parce qu'on a vu aussi, en échangeant avec certains de ces migrants refoulés, que la plupart d'entre eux, en tout cas, ne sont pas là-bas que pour quémander. Ils sont là-bas. La plupart d'entre eux travaillent soit sur des chantiers, travaillent dans des jardins. En tout cas, ils ont des activités à faire. Et souvent, c'est sur les lieux de travail qu'on les prend. On les met dans des véhicules et on les envoie dans le désert.
Donc souvent nous appelons nos partenaires qui sont là-bas. Là, chaque fois qu'il y a un refoulement, on essaie de chercher pourquoi ce refoulement. En réalité, d'abord, l'Algérie, c'est je ne suis pas un Algérien, mais selon ce que j'entends, l'Algérie, c'est un pays musulman qui n'est pas d'accord avec certains comportements africains. Par exemple, hier, quand vous êtes venu dans le centre de Rivière, vous avez vu quand même des migrants qui sont rasta, qui ont de longs cheveux, qui s'habillent très mal. L'Algérie, c'est un pays musulman qui ne marche pas sur ça en réalité. Il y a ça aussi.
Voilà. Ça peut, donc, certains comportements peuvent expliquer aussi leur comportement.
C'est ça. Très bien.
Monsieur Abdoulaye Diallo, vous êtes un ancien ami, candidat à l'immigration. Aujourd'hui, si vous devez retourner à l'immigration, comment vous allez faire?
Bon, merci des questions. Mais quand je vais faire des retours d'immigration, il faut que je sois très clair que j'ai mes papiers. On avait beaucoup de problèmes sur les papiers. Aujourd'hui, si nous les Maliens quand même, si on va partir en Algérie, on demande des passeports. On ne demande pas de carte d'identité. Et le dernier poste quand tu viens, il te demande des passeports. Si tu n'as pas de passeport, l'on te dit que même tu as des cartes d'identité, l'on te dit que non. Nous, on a besoin de passeport. Il faut qu'ils vont te rembarquer pour te refouler. Ça aussi, il y avait un problème sur ça.
Moussa Yahia, parlant de passeport, ici, on dit que certains candidats estiment qu'il est plus facile de devenir malien, notamment quand on est à Gao, il est plus facile de trouver des pièces d'identité malien. Est-ce que vous confirmez, vous qui êtes de Gao?
Bien entendu, je confirme. Et d'ailleurs, je confirme que si nos migrants ont des problèmes aujourd'hui avec l'Algérie et autres pays, c'est à cause de cela. Parce que très malheureusement, c'est ce que, n'est-ce pas, ces autorités, ces gens qui font leur patrouille au niveau de l'Algérie découvrent souvent. Ils trouvent quelqu'un qui a la nationalité malienne, qui a les pièces maliennes, qui malheureusement ne sait parler aucune langue du Mali. Et là, ça veut dire que le papier est faux. Du coup, même ceux qui sont innocents sont pris par la même chose. On les traite. Sinon, je confirme qu'avant, les migrants, pour ce qui est les migrants maliens, en tout cas, quand tu détiens des pièces maliennes, on te prend déjà comme étant un sérieux. C'est sûr que tu as un métier que tu sais faire. C'est sûr que tu es venu en aventure pour bien bosser et avoir quelque chose.
Alors, mais comment ils arrivent à trouver ces pièces-là?
Bon, c'est parce que tout simplement la corruption a gagné le terrain. La corruption a gagné le terrain et à tous les niveaux.
Où est-ce qu'ils trouvent cette
pièces? À tous les niveaux, je dis. À tous les niveaux. Aujourd'hui, nous avons vu, n'est-ce pas, pendant
est-ce que vous aux premières heures. En tant que jeune?
Si, nous avons dénoncé.
Auprès de qui?
Bon, auprès de qui? C'est-à-dire, auprès de qui vous voulez qu'on dénonce? C'est auprès, n'est-ce pas, de tous les décideurs. Quand il y a des rencontres, n'est-ce pas, de sécurité, nous parlons de cette situation devant tout le monde. Mais malheureusement, je vous donne un exemple palpable. Même l'autre jour seulement, le directeur national de la sécurité intérieure a déclaré que la carte d'identité nationale ne doit pas dépasser 1700 francs. Alors qu'aujourd'hui, on le sait, à Gao, si tu ne payes pas 3000 francs ou 5000 francs, tu n'as pas cette même carte d'identité. La déclaration est officielle, mais ce qui se fait officieusement, c'est autre chose. Soit tu payes cet argent pour l'avoir, soit tu ne payes pas, tu ne l'auras pas. Donc ça, c'est des problèmes. Et celui-là qui a les moyens, qui a le pouvoir de payer, nous, on a vu aux premières heures de la reconquête une seule personne venir seulement avec des photos d'identité et des noms écrits sur un papier et qui sort avec 20 ou 30 pièces d'identité. C'est aberrant, c'est l'amertume, mais c'est la triste réalité. Vous voyez, donc c'est tous ces aspects-là qui ont fait que le citoyen lambda qui va essayer d'être un migrant un jour puisse rencontrer des problèmes parce que tout simplement, on ne se rassure pas que c'est son identité qui se trouve sur la pièce.
Bien. Bien, nous revenons à vous, Monsieur Ibrahim Miharata, de l'association d'Ireben. Alors, ces migrants qui reviennent, en tout cas, vous les accueillez. Est-ce que, quelque part, la plupart des difficultés que ces migrants rencontrent, c'est parce qu'ils sont dans un départ irrégulier, ils sont sans papier, ou bien une partie d'entre eux détient bien, en tout cas, des documents de voyage?
Oui, ça existe beaucoup, parce qu'en réalité, même les Maliens, ils prennent vraiment les Maliens entre le Mali et l'Algérie. Par exemple, un Malien qui va en Algérie, après 3 mois, tu dois revenir au Mali pour faire le cachet. Mais quelqu'un qui va dans un pays où tu devrais sortir dans chaque 3 mois pour faire un cachet, tu restes pendant 1 an ou 6 mois. Donc ça veut dire que tu n'as pas raison. Ça veut dire que le migrant même n'a pas raison. Donc, et puis, il y a beaucoup de pays. Par exemple, il y a des migrants qui ne pouvaient pas traverser le Mali sans le visa. Ils savent bien que pour traverser le Mali, il faut un visa, mais ils viennent sans visa. Donc, la police ou la gendarmerie sont obligés quand même de les verbaliser. Voilà, il y en a ça en paquet.
On dit qu'il y a des réseaux qui confectionnent des cartes d'identité ici à Gao. Est-ce que vous, au niveau de votre association, vous en savez quelque chose?
Bon, nous, on entend parler, c'est que sur nous, les migrants, c'est quand ils sont de retour qu'ils viennent dans le centre. Et en très généralement, tous les migrants qui viennent, la plupart n'ont pas de papiers. La plupart des papiers ont été retirés depuis l'Algérie. Donc voilà, nous, on ne peut pas découvrir ça là. Quand même, on sait partout au Mali, il y a des gens qui disent qu'il y a des étrangers qui ont le papier malien. Ça se dit en pagaie, mais moi, je ne peux rien dire par rapport à ça. Voilà.
Par rapport à ces papiers-là, vous, lorsque vous êtes à l'immigration, est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ces papiers-là? C'est les papiers pour lesquels on vous a refoulé ou comment ça s'est passé?
Oh, merci. Il y avait les pays arabes. Nous, on disait que mon migration que je l'ai fait, et le migrant même, on a fait beaucoup de sensibilisation pour la radio FM qui était à Gao. Quelqu'un qui va dépasser à Libye pour partir, quelqu'un qui va partir en Libye, par exemple. Ici au Mali, nous, on prend les passeports seulement. Mais il y a des nous-mêmes, si on partait en Algérie, à Libye, il faut un visa. Tout le monde, l'immigration, c'est la fraude. Nous, on prend toujours de la fraude. La fraude qu'on nous, on nous a pris. Pourquoi? Parce que quand on est parti pour l'immigration, nous, on s'en fout des papiers. On cherche seulement de l'argent pour qu'on puisse partir.
D'accord. Oui. Alors, Moussa Yehia, du Conseil communal de jeunes, qui sont les bénéficiaires de cette immigration clandestine? Qui sont les bénéficiaires? À qui profitent?
Les bénéficiaires, ce sont, n'est-ce pas, ces brigands qui sont dans les différents réseaux. C'est eux seulement les bénéficiaires. Il y en a parmi eux des gens qui se comportent comme étant des transporteurs, qui vous prennent lorsqu'ils doivent vous transporter sur une distance de 100 km. Ils vont vous amener peut-être à 80 km, etc. Et puis ils vont vous dire qu'ils sont arrivés à destination. Alors si vous devrez compléter ces 80 km à 100 km, vous serez obligé encore de donner quelque chose. Ça, c'est des brigands transporteurs. Il y a aussi les brigands qui se comportent comme étant des accueillants. Ceux-là chez qui vous partez en premier lieu. Eux aussi, ils vont vous mettre dans une maison close. Ils vont vous faire payer quelque chose pendant votre séjour. Peut-être ils vont vous payer, le loyer, la nourriture, etc. Puisque vous n'êtes pas du milieu, vous êtes obligé de vous conformer à leur volonté, ou bien vous ne serez nulle part. Parce que tout simplement, vous êtes dans l'illégitimité. Sinon, si vous étiez légalement parti, je pense que tout cela, on ne va pas le traverser. Hein? Donc, seul le perdant, en tout cas dans cette situation, c'est le migrant lui-même. Parce que tu vas non seulement perdre ta richesse, ce que tu as comme fond de départ, tu vas le perdre. Tu vas risquer ta vie, même souvent. Tu risques de mourir ou bien de tomber malade. Et à destination aussi, tu peux avoir la déception de telle sorte que tu te poses même la question comment y revenir. Souvent, c'est un problème.
Ibrahim, est-ce qu'il y a une loi qui criminalise cette aventure à l'immigration?
Bon, il y a beaucoup de lois qui parlent de ça, mais ce n'est pas parler de ça qui est important. Quand il parle, il faut appliquer. Par exemple, les associations, ne font que dénoncer tous les jours, toutes les nuits, mais il n'y a rien. En réalité, ce n'est pas facile parce qu'en réalité, surtout, je parle en train du Mali, l'aventure pour que les gens le laissent, ce n'est pas du tout facile. Parce que nous, on trouve que c'est des trucs qui sont organisés au sein des familles.
Alors, comment y mettre fin? Hein? Quelle solution?
Bon, la solution, il faut carrément qu'on dégage la pauvreté. On dégage la pauvreté. S'il n'y a pas de pauvreté, les gens vont rester. Hein? C'est ça?
Les autorités décident à mettre fin, est-ce que les associations vont continuer dans cette lutte?
Oui, mais nous sommes dans cette lutte-là à tout moment, mais c'est à voir est-ce que l'État peut mettre fin à ça. C'est ça le problème, parce que comment l'État va mettre ça fin?
Comme vous avez dit,
un État qui n'a pas les moyens pour plus placer, même les étudiants qui finissent les études, l'État n'arrive pas à les placer. Comment mettre fin à cette aventure? Je veux vous dire aujourd'hui que les voyages d'aujourd'hui, là, c'est des voyages qui sont organisés au sein des familles. Par exemple, les migrants que nous rencontrons, il y a des migrants en partant, les femmes, les papas ou les mamans, ils vendent leur bœuf pour les donner pour qu'ils puissent aller en voyage. Donc, quelque chose qui est préparé dans la famille. Hein? L'État ne pouvait pas refuser ça.
Moussa voulait réagir par rapport à quelle solution faut-il, n'est-ce pas?
Moi, je pense que la solution, c'est qu'il ne faudrait pas se décourager. Toutes ces organisations-là qui sont en train de mener des séances de sensibilisation à l'égard de nos camarades jeunes, je leur dis courage et je leur dis de ne pas se décourager. Moi, je pense que c'est seulement ces séries de sensibilisation qui pourront mettre fin à cette migration. Parce que très sincèrement, certains partent même avec un capital leur permettant de réussir à la maison. Et pourtant, ils partent. C'est étonnant. Lorsque vous allez voir un migrant qui a des millions en poche, qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as des millions en poche, au lieu d'aller ailleurs, il faut chercher à créer des opportunités chez toi et puis te développer et développer les autres. Mais très sincèrement, c'est les sensibilisations là. En tout cas, c'est sur ça que moi je me cramponne pour dire que c'est seulement cela qui pourra mettre fin à ça. Sinon, dire que l'État, dire que les familles, etc., c'est les sensibilisations seulement. De sensibilisation en sensibilisation, je crois qu'on va retomber même dans les familles pour mettre fin à ça.
Monsieur Diallo Abdoulaye, ancien migrant, pour vous aujourd'hui, quelle peut être la meilleure façon, en tout cas, de mettre fin à toutes ces souffrances que les jeunes vivent en partant en aventure? Comment on peut régler ce problème?
Merci. Comment on peut régler ce problème? Il faut qu'on crée les projets, on crée de l'activité pour que les gens puissent sortir dans la migration. Parce que l'immigration, c'est un virus. Ça, je vous dirai. Quand je mets ma tête aujourd'hui, je vais partir en immigration. Je vais cacher même dire à la personne pour qu'il puisse me parler même, pour me mettre dans la bonne. Je vais dire qu'il ne voulait pas que je vais aller. Mais puisqu'on peut rester pour travailler, il faut qu'on crée l'activité. L'activité.
Donc créer du travail.
Oui, merci.
Moussa, est-ce qu'il existe aujourd'hui une volonté politique réelle pour mettre fin à cette immigration clandestine?
Bien sûr, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce tous les jours, n'est-ce pas, des séries de formations à l'endroit des jeunes. Ça n'a autre objectif que de réduire le taux de chômage. Lorsqu'on sait que la grande partie, n'est-ce pas, la grande cause de cette migration, c'est le chômage. Et si le département se soucie de cela, forme les jeunes, mais très sincèrement, c'est le suivi qui fait défaut souvent. Parce que les formations ne sont pas faites sérieusement et les outils, les mesures d'accompagnement de ces formations aussi font défaut. Souvent, vous faites une formation. À la fin de la formation, normalement, au début, on vous dit que vous méritez avoir un matériel, mais à la fin de la formation, vous n'avez rien.
Malheureusement, le temps nous fait défaut. C'est sur ce terme que prend fin ce débat et réalisé par Studio Tamani et Studio Kalangou dans le cadre du renforcement du projet de la Fondation Hirondelle. Nous avons été reçus sur les ondes de la radio Futila, une radio partenaire de Studio Tamani à Gao. Le thème de ce débat était la migration irrégulière vers l'Europe, causes, conséquences et solutions. Nous étions avec Ibrahim Miharata Maïga, coordinateur de l'association d'Ireben, Moussa Yahia Atouré, membre du conseil communal de jeunes de Gao, et Abdoulaye Diallo, ancien candidat à l'immigration. Ce débat a été co-animé par Imrana Kilou Maïga du Studio Tamani, Alassane Kouzi Mahamadou du studio Kalangou. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Moundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.